Seigneur notre Dieu, tu nous dis, Seigneur, dans ta parole que celle-ci ne quitte pas ta bouche sans revenir à toi et en portant du fruit. Tu nous dis de ta parole, Seigneur, qu'elle est une lumière sur notre sentier, qu'elle est une lampe à nos pieds. Seigneur, ce matin encore, que ta parole germe dans notre cœur, Seigneur, et qu'elle ne soit pas entendue sans revenir à toi, Seigneur, pour porter du fruit dans nos vies et par là te glorifier, notre Dieu. Amen. Vous savez que le mot d'ordre un peu de l'année, cette année, c'était « Marche avec ton Dieu ». Et on a eu déjà l'occasion d'aborder plusieurs de ces facettes, de ces manières de marcher avec Dieu. Et ce matin, je voudrais, au départ d'un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, je voudrais que nous puissions peut-être encore là tirer deux pistes, deux manières de marcher avec notre Dieu. Et l'élément principal, fondamental, ce serait marche avec ton Dieu, marche par la foi, marche avec foi, marche par la confiance, marche avec la confiance, et peut-être d'une manière plus accessoire, plus secondaire, marche aussi au-delà des limites, au-delà des frontières. Et je voudrais que, pour illustrer cet aspect de la marche avec Dieu, marcher par la foi, par la confiance, nous lisions ce passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, des versets 21 au verset 28. C'est une histoire extraordinaire, comme ces histoires qu'on aime, parce qu'on a un peu l'impression de s'identifier comme ça à en tant que chrétien, à une vue large d'idées. Et pourtant, ce n'est pas facile à mettre en pratique ces choses-là. Jésus, parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et il lui répondit « Pas un mot. » Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Et il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Passage dur. Quand moi, les premières fois où j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce Jésus-Christ-là? C'est quoi ce texte? C'est quoi cette compassion envers cette femme? Marche avec ton Dieu, avec foi et confiance. Je pense qu'il est précieux pour comprendre l'histoire et ce qui se déroule dans cette rencontre entre Jésus et cette femme, de se souvenir que Tyr et Sidon, ce sont des régions un peu particulières. Ce sont des régions où normalement les disciples n'allaient pas. N'allaient pas parce que l'ordre du Seigneur en Matthieu 10:6 c'était « N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Et là on se trouve à un tournant du ministère de Jésus-Christ qui expressément se retire avec ses disciples dans des terres où on ne peut pas aller. On peut les appeler des zones rouges, des zones interdites pour les bons spirituels d'Israël. Tyr et Sidon. Vous vous souvenez peut-être un peu, Tyr, c'était l'origine. Pourquoi on n'allait pas là-bas? C'est important pour la suite parce que Tyr, c'est par exemple l'origine de la reine Jézabel qui s'est mariée avec le roi Achab et puis qui, vous vous souvenez de toute l'histoire d'Élie, a fait venir en Israël tous des dieux étrangers, tous les dieux païens de cette contrée-là. Et c'est là qu'il y a eu ces combats entre Élie et les Baals et les représentants, les prêtres de Baal. Sidon, c'est un peu plus au nord, c'est la même chose. C'est de Sidon que Ézéchiel va par exemple écrire en disant qu'il y a eu comme une lacération dans la spiritualité de l'État d'Israël à cause des divinités qu'on adorait là-bas en Sidon et qui ont pollué la spiritualité d'Israël. Hein, c'est de Sidon que venait aussi Baal et surtout Astarté. Vous savez, cette déesse qu'on représente comme la reine-mère de la fécondité, celle qui donne la vie. On voit encore des statues d'Astarté encore aujourd'hui avec le corps couvert soit de seins, soit de testicules de taureau, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'est la semence même, la mère nourricière de la terre. C'est de là que venaient ces religions qui ont contaminé la religion de Dieu et c'est pour ça que ces contrées étaient laissées de côté. On ne parlait pas avec ces gens-là, on côtoyait pas ces gens-là. Et là, dans cette région, en zone rouge, en zone interdite, il y a cette femme avec son tourment de mère qui vient et qui s'approche de Jésus avec cette interpellation. Je voudrais, peut-être, on n'est pas très nombreux quand même ce matin, peut-être simplement laisser le texte nous parler, essayer de définir un peu, de voir cette scène, définir un petit peu quel est le personnage qui vient vers Jésus à ce moment-là. Hein, je ne sais pas, mais simplement, hein, on ne cherche pas des complications. Les deux premiers mots, une femme cananéenne, je ne sais pas, qui vient vers Jésus, à votre avis? Hein, restons déjà, hein, peut-être avant une païenne, avant une cananéenne, peut-être une femme. Hein, une femme. Je suis surpris dans la parole de Dieu le nombre de fois où ces rencontres exceptionnelles se sont passées entre une femme et Jésus. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de rencontres extraordinaires qui se sont passées dans la parole de Dieu entre une femme et Jésus qu'entre un homme et Jésus. Et vous savez, c'est pas insignifiant. C'est vrai que les juifs très pieux, les meilleurs juifs bien pieux, dans leurs prières tous les jours, ils disaient « Je te glorifie, ô mon Dieu, que je ne suis ni un païen, ni un esclave, ni une femme. » Ça se disait dans la prière, comme ça, tous les jours, pour les juifs bien pieux. « Je te loue, ô Dieu, que je ne suis pas une femme. » C'est vrai que la femme n'était pas une lépreuse, ce n'était pas une païenne, mais quand même, c'était beaucoup moins qu'un homme. Et c'est dans ce contexte-là, en zone interdite, que c'est une femme qui vient encore une fois vers le Seigneur, comme dans la rencontre avec la Samaritaine. Mais deuxième caractéristique, peut-être une femme. Ouais, une femme cananéenne. Hein, donc une femme de cette contrée, donc on m'a dit là tout à l'heure Gaston, une païenne. Une païenne, ça veut dire quoi, hein, une païenne aux yeux des juifs qui sont là avec Jésus, de ses disciples? Mais ça veut dire ce qui est défini dans Deutéronome, chapitre 27, verset 17, « Car tu les voueras à l'interdit, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Yébousiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. » Vouer à l'interdit, ça veut dire passer par le fil de l'épée. Ça veut dire exterminer. C'est vrai que ces textes sont terribles. Hein, quand on est dans une église, on ne cite pas ces textes comme ça, n'importe où, n'importe comment. Et ce n'est pas le propos de ce matin. Mais on sait qu'il y a un sens à ces choses-là. Un sens qui ressemble à ce qui s'est passé à Sodome et Gomorre. Un sens qui ressemble à ce qui s'est passé au moment du déluge. On sait que Dieu avait dit à son peuple, tu auras une terre, mais tu n'en prendras possession que dans 500 ans, au moment où la moralité de ces contrées aura atteint une dimension qui est irréversible. Et alors, il faudra passer par le fil de l'épée ces nations. Ce n'est pas le propos de ce matin, simplement préciser que cette femme-là vient de ces contrées-là, où il était marqué dans Deutéronome que ces gens-là, on ne les parle pas parce que normalement, on les passe par le fil de l'épée. Hein. Troisième caractéristique, peut-être, il apparaît sur l'écran, mais cette femme qui vient, qui dit « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David », c'est une femme qui a la foi. C'est une croyante. Moi, je suis très impressionné parce que c'est le chapitre 15 et que c'est dans le chapitre 16, pour la première fois, que Jésus va dire à ses disciples, mais qui est-ce qu'on dit que je suis? Oh, ben t'es un tel, t'es un tel, t'es un tel. Et puis il va dire, et vous, qui dites-vous que je suis? Et là, on a cette révélation de Pierre qui dit, toi, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, gloire à Dieu que l'Esprit t'ait révélé cette chose. Mais apparemment, l'Esprit a déjà révélé à d'autres personnes qui est Jésus-Christ. Cette femme a reçu, cette Cananéenne, cette païenne, a reçu une révélation de l'Esprit de Dieu qui lui fait comprendre que Jésus est Fils de Dieu. C'est quand même ce qu'elle dit, aie pitié de moi. Elle s'attend à lui, elle a besoin de lui. Elle a besoin de son aide, elle lui fait confiance. Moi, je ne dis pas à quelqu'un, aie pitié de moi si ce n'est pas pour lui demander quelque chose. Aie pitié de moi, viens à mon secours, j'ai besoin d'argent. Aie pitié de moi, guéris-moi. Aie pitié de moi, résous mon problème. Elle a confiance en lui. Elle l'appelle Seigneur, mais elle l'appelle Fils de David. On sait que Fils de David, c'est l'expression même de la messianité de celui qu'on attendait, celui qui devait sauver le peuple. Elle l'appelle Fils de David. Quatrième caractéristique de cette femme, une femme cruellement tourmentée par le démon. Vous diriez, une femme. Oui, donc sa fille est comme ça, et elle, la mère, elle est bien perturbée, meurtrie, elle souffre, il y a de la douleur dans sa vie. C'est une femme meurtrie qui vient auprès du Seigneur. Vous souvenez le nombre de fois où des démons ont été expulsés des corps par le Seigneur. Hein? Moi, j'aime bien que toujours Christ fait la différence entre une maladie et une possession. On voit ça à plusieurs passages où le Seigneur, on voit un petit peu, le Seigneur chassa plusieurs démons, et puis la phrase continue, et le soir même, il guérit plusieurs malades. On fait la distinction. Un malade n'est pas un possédé n'est pas un malade. Il y a vraiment dans l'Écriture une distinction entre deux choses. Et on ne connaît pas l'histoire de cette fille. Est-ce qu'elle est possédée d'un démon depuis longtemps, depuis toujours, depuis peu de temps? On n'en sait rien. Qu'est-ce que ça lui fait dans sa vie? Est-ce que c'est un démon qui l'automutile? Est-ce que c'est un démon qui fait qu'on doit l'enfermer parce que sinon elle est hyper agressive avec les autres? Est-ce qu'elle crie toute la journée? On n'en sait rien. Mais cette femme souffre. C'est donc une femme, une païenne, une croyante, une femme qui souffre, qui vient auprès du Seigneur Jésus, qui s'adresse à lui en lui disant « Aie pitié de moi ». Et que lui répond Jésus? Rien. Et ne lui répondit rien. Et ne lui répondit rien. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer la femme qui crie, qui supplie, et Jésus qui a l'air de même pas la regarder, qui lui dit rien. Oh, bien sûr, nous qui connaissons la suite de l'histoire, on sait que Jésus ne dit rien parce qu'il a un plan. Jésus sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il va faire, il sait qu'il va utiliser la foi de cette femme pour donner un enseignement tout à fait extraordinaire à ses disciples, mais en attendant, il ne lui dit rien. Et elle crie, elle supplie, elle prie, et lui, il ne dit rien. Et je pense que dans notre marche avec le Seigneur, où nous marchons par la foi, cet élément de pouvoir nous attendre au silence de Dieu, au silence de Christ, sont quelque chose de tout à fait capital. Vous avez vécu, n'est-ce pas, ces moments où c'est sombre, vous ne savez plus trop où vous marchez, vous cherchez une rampe, mais vous ne la trouvez pas. Vous priez, mais vous avez l'impression que le Seigneur ne répond pas. Les silences de Dieu ont un sens. Cette histoire nous montre que parfois le Seigneur se tait et que cela a une raison. D'ailleurs, quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit que quantité de ces hommes qui ont été serviteurs, qui ont marché avec Dieu, se sont retrouvés dans ces moments de silence avec Dieu. J'ai pris ici Lamentations 3, verset 8, où il y a Jérémie qui est en train de dire J'ai beau appeler au secours, il ferme tous les accès à ma prière. Mais on pourrait trouver ça dans d'autres passages de ces hommes qui se sont retrouvés là en train de pleurer devant le Seigneur en disant « Mais j'ai beau crier au secours !» Et toutes les portes ont l'air d'être fermées. À notre rencontre de maison, vendredi, on partageait le petit psaume 13, un petit psaume de David qui commence à « Jusqu'à quand ?» Jusqu'à quand, Seigneur, tu vas détourner la face de moi? Jusqu'à quand tu vas rien dire? Jusqu'à quand ton oreille ne va pas entendre mon cri? 5 ou 6 fois comme ça, il dit jusqu'à quand? Et silence de Dieu. Quand on voit la suite de cette histoire, on comprend que le Seigneur laisse venir cette femme à lui. Quand on voit la suite de cette histoire, on comprend que parfois, clairement, les silences de Dieu dans notre vie ont un but précis. Peut-être, comme il me semble que ça s'est passé ici avec cette femme, en montrant aux autres ce qu'est la persévérance dans la souffrance. Apparemment, les disciples, ils n'ont pas trop compris, mais peut-être que s'il y en avait parmi eux qui avaient quand même un peu de compassion, ils ont quand même dû être interpellés par cette femme à laquelle on ne répond rien, mais qui continue à supplier, qui continue à demander. Oui, peut-être que parfois, les silences de Dieu, ils sont là pour que nous soyons une sorte de témoignage à la persévérance, même quand c'est dur. Peut-être que les silences de Dieu sont parfois là comme pour nous donner cette leçon, continue d'espérer, continue à faire confiance, continue d'intercéder, continue de demander. Comme la leçon qui avait été donnée par cette parabole de la femme, de cette femme avec le juge inique, qui insiste, jusqu'à ce que le juge lui donne satisfaction. Peut-être que parfois les silences de Dieu sont simplement là dans notre vie pour nous apprendre ce qu'est la foi aveugle. Ainsi, si chaque fois qu'on se plaint, qu'on demande, qu'on prie, qu'on vient auprès du Seigneur, c'est réglé, comment allons-nous apprendre la foi aveugle? Vous avez peut-être déjà entendu cette anecdote. C'est un monsieur qui marche au bord du précipice et puis il marche tellement au bord du précipice que finalement il tombe. Heureusement pour lui, il y a un arbuste, quelques branches, il se rattrape à ça, il est accroché dans les branches et le temps de reprendre son souffle, il crie, il dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut? Il y a quelqu'un là-haut ?» Et alors il y a une voix qui lui répond, qui lui dit « Oui, il y a moi, je suis Dieu, je suis là, je te vois, n'aie pas peur et confiance. » Alors l'autre, il souffle. Et puis il dit à Dieu, ok, mais tu sais, fais quelque chose rapidement parce que je sens que les branches ici auxquelles je tiens, ça ne va pas résister longtemps. Alors, il y a Dieu qui lui répond, qui dit, pas de problème, mais pour que je puisse agir, il faut d'abord que tu lâches l'arbuste auquel tu t'accroches. Alors il y a un long silence. Et puis on entend la voix qui dit, il n'y a pas quelqu'un d'autre là-haut? Soit à apprendre la foi aveugle lorsque nous devons lâcher certaines branches et que nous ne comprenons pas. Alors, après le silence, comme cette femme continue à supplier, c'est intéressant de voir la réponse du Seigneur. « Mais j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, moi. » Quelle réponse ? Hein, peut-être qu'il vous arrive dans votre vie, dans des moments de détresse, de recevoir comme ça des réponses qui vous frappent, qui vous choquent, qui vous interpellent. J'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et là, nous qui connaissons la suite, nous comprenons qu'il est en train de se passer quelque chose d'important pour les Juifs qui sont là avec Jésus et avec cette femme. Le Seigneur va utiliser cette femme en la laissant venir pour leur faire comprendre quelque chose. Il va d'abord donner une leçon de doctrine. Il va dire « Je suis venu pour les Juifs, pas pour les autres. » Mais une leçon de doctrine qui prépare ce que Jean-Paul vient de nous lire dans le chapitre 3 du livre de Romains. « Alors le Dieu de toutes choses ne serait venu que pour les Juifs et non pas pour les païens ?» Non, le Dieu créateur n'est pas venu que pour les Juifs, il est venu aussi pour les païens. Et c'est là ce qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose qui bascule dans cette terre interdite où les disciples ne pouvaient même pas aller. Il y a quelque chose que le Seigneur va leur faire comprendre. Mais pour cette femme, les paroles sont quand même dures. Pour cette femme, les paroles sont quand même dures. On dirait qu'il y a une sorte de jeu entre Jésus et elle. On dirait que Jésus n'a en tout cas pas encore laissé transparaître quoi que ce soit de ses intentions futures. Et moi, ça me fait penser un peu à « il l'a fait marcher ». Il fait marcher sa foi. Il lui fait confiance parce qu'elle sait qu'elle gardera la foi. Mais il fait marcher sa foi. Un petit peu comme ça s'est passé avec Abraham et son fils, qu'au dernier moment, la main est retenue. Un peu comme ça s'est passé entre Jacob et ce combat avec l'ange de l'Éternel et qui le retient toute la nuit en disant « Je ne te laisse pas partir avant que tu m'aies donné ton nom. Je ne te laisse pas partir avant que tu aies donné ton nom. » Une sorte, il laisse venir cette femme jusqu'aux limites de sa foi. Et elle, pas de problème. C'est sûr que quand Jésus a dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël », c'était déjà en opposition complète avec ce qui était dit à Abraham. Les nations, toutes les nations de la terre seront bénies dans ta descendance. Toutes les nations de la terre et pas seulement le peuple d'Israël. Ésaïe 49:1 « Il, écoutez-moi, peuple lointain et pas seulement Israël, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé pour vous annoncer ces choses. » La femme, elle persévère, elle continue. Elle vient se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Et lui, il surenchérit, il remet une couche. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Voilà où Jésus veut en venir. Il utilise une sorte de caricature, une image choquante. Et il associe le peuple d'Israël aux petits-enfants, ceux qui ont droit à la nourriture qui est sur la table, et tous les autres aux chiens. Mais, ce faisant, il va essayer de faire comprendre qu'il est venu aussi pour les petits-chiens. Et bien plus, il va montrer à ceux qui sont autour de lui que les enfants vont le rejeter et que ce sont les chiens qui vont se tourner vers lui, s'approcher de lui et leur dire « Aie pitié de moi par la foi ». C'est ça la leçon que le Seigneur est en train de donner à ses disciples qui sont autour de lui au travers de cet échange qu'il a avec cette femme. Et alors on a cette réponse extraordinaire, cette femme qui se tourne encore vers le Seigneur et qui dit « Oui, mais... » Elle ne dit même pas les chiens, elle dit les petits chiens. Encore moins qu'un chien, plus petit qu'un chien, les petits chiens. Les petits chiens, ils mangent quand même les miettes qui tombent sous la table de leur maître. Voilà la foi de cette femme, par pure grâce. Je n'ai droit à rien. Elle n'est pas une femme qui claque la porte. Elle n'est pas quelqu'un qui dit, hein, comme nous entendons tous les jours aujourd'hui, j'ai quand même des droits comme les autres êtres humains. J'ai quand même des droits aussi comme Israël, si Israël ce sont les enfants de Dieu. J'ai des droits. Non. Elle demande la grâce. Elle demande des miettes de grâce. Elle implore la grâce de Dieu. Elle sait qu'elle a droit à rien. Mais elle continue de demander par la foi quelques miettes de grâce de la part du Seigneur. Et alors le Seigneur qui connaissait la fin élève cette femme comme deux personnages dans toute l'Écriture ont été élevés. Le centenier romain là, auquel Jésus a dit « Je n'ai rencontré jamais un homme en tout Israël qui ait une foi comme ça. » Et fait la même chose avec cette femme. Il lui dit « Oh femme, mais quelle grande foi !» Presque toujours quand on voit le Seigneur qui parle de la foi de ses disciples, de ceux qui le suivent, il dit « Mais combien vous avez peu de foi !» Mais combien vous avez peu de foi. Et ici, il dit à cette femme, « Ô femme, que ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, elle fut guérie. J'ai envie de dire en lisant ce texte, j'ai envie de dire, je suis convaincu qu'on a ces moments hein, où c'est sombre, où c'est dur, où il n'y a pas de réponse, où on a l'impression que même nos prières ne montent pas plus haut que nos semelles de nos souliers. Et j'ai envie de dire, à ce moment-là, continuons, intercédons, gardons la foi, gardons la confiance, pensons à cette femme, supplions Dieu de nous donner des miettes de grâce, des miettes de bénédiction. Il y a dans ce texte aussi une remarque que je voudrais faire par rapport à notre marche avec confiance et par la foi, mais marche aussi en dépassant certaines de tes limites, en dépassant certaines de tes frontières. On a sauté le verset 23, la deuxième partie du verset 23 dans la lecture détaillée que je viens de faire, parce que ce verset m'interpelle. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la !» Parce qu'elle crie, derrière nous. Et c'est vrai, ça m'interpelle parce que ça ne fait pas preuve de beaucoup de compassion. Hein, je me dis, mince, ils auraient pu au moins faire comme Jésus. Ils ne savent pas pourquoi Jésus dit rien, mais Jésus dit rien. Mais eux, non. Non seulement ils disent rien, mais ils disent, allez, bac là, hein. Que ce soit fini, entends comme elle crie, comme elle hurle là derrière, renvoie-la, qu'elle nous laisse la paix, quoi. Quel manque de compassion. Et je pense que le Seigneur donne une grande leçon à ses disciples ce jour-là. Dans la semaine pour la prière, Roger Lefebvre faisait référence à ce texte en disant que Dieu ne sait pas être enfermé dans une boîte, mais Dieu n'aime pas non plus que nous soyons dans un moule et dans une boîte. Dieu aime bien bousculer les règles, il aime bien bousculer les traditions, il aime bien bousculer nos échelles de valeurs. Et je disais tout à l'heure, nous aimons ce style de texte, où le Seigneur va à la rencontre de la païenne, et où il se passe une histoire de foi, et où il y a l'exaucement de la prière. On aime ça, on s'identifie à ça. Nous, chrétiens, croyants, nous savons qu'il y a des dimensions et des portes ouvertes comme ça, extraordinaires. Mais ça, bien souvent, c'est la théorie. Hein, quand il nous s'agit, en pratique, de dépasser nos propres limites, nos propres frontières, ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais Jésus, c'est dans la vie réelle qu'il était. Ce n'était pas dans la théorie, c'est dans la vie réelle. Et comme le disait Roger Lefebvre dans ce texte sur la semaine de la prière, il disait, comment réagirais-je si le Seigneur me prenait par la main, m'amenait dans l'assemblée chez les musulmans et me montrait la guérison d'une femme musulmane gravement malade? Comment je réagirais? Comment je prendrais ça? Comment je réagirais si le Seigneur, hein, quand j'entends et je connais les propos que je vais dire peut-être sur l'immigration, comment je réagirais si le Seigneur m'amenait, me prenait par la main et me disait « Il faut une politique d'immigration totalement différente, il faut accueillir tous les immigrés, il faut aimer tous les immigrés. » Comment je réagirais? C'est un peu ce qui s'est passé ici. Les disciples, ils suivent le Seigneur sur les chemins où ils peuvent le suivre. Mais il y a des chemins où ils préfèrent pas le suivre. Ils préfèrent le laisser se débrouiller tout seul. Renvoie cette femme, c'est une païenne, on ne parle pas avec elle. D'ailleurs, c'est déjà une femme. Renvoie-la. Comment réagirais-je? Je pense que ce texte nous montre que suivre le Seigneur, ça passe par revoir certaines de nos valeurs, revoir certaines de nos convictions, revoir certaines de nos échelles de valeurs, certaines de nos priorités, et de pouvoir dire aussi ça. Il faut laisser dépasser les limites de mes propres frontières en suivant et en marchant le Seigneur. Pour conclure, je voudrais donc vraiment vous inviter à vous laisser habiter par ce texte comme il m'habite moi-même. Comme il m'habite moi-même, à ne pas me laisser troubler par les silences de Dieu. Ils sont utiles, ils ont un sens, ils ont un but, ils ne sont pas un abandon, ils ne sont pas un jusqu'à quand pour toujours. Non, jusqu'à quand ils ont un sens. Souvenons-nous de l'histoire de cette femme et de ce silence du Seigneur devant sa détresse. Et nous aussi, puissions-nous partir ce matin encore à ne pas nous laisser troubler par les silences de Dieu. Bien sûr, marchons par la foi, marchons par la confiance. Continuons d'espérer, de mendier, d'intercéder. Je pense, parfois ça part d'un bon sentiment, nous disons, mais le Seigneur quand même connaît le problème, il le connaît. À quoi ça sert que je lui représente le même problème? À quoi ça sert? Il le connaît. Non, on ne sait pas pourquoi le Seigneur veut que nous continuions à faire confiance, à avoir foi, à demander et intercéder. Mais quantité d'histoires de la Bible nous enseignent que c'est ainsi qu'il faut faire, que cette histoire nous rappelle cette femme qui, malgré des paroles dures, malgré le silence, malgré des paroles qui lui fermaient, qui lui claquaient la porte au nez. Comment aurais-tu réagi, toi, si tu t'approches du Seigneur et qu'il te dit « Moi, je ne suis pas venu pour les chiens, hein ?» Comment tu réagirais à ça? Apprenons à continuer à faire confiance et avoir foi. Soyons mendiant de la grâce. Je suis impressionné que même quand on la traite de chien, cette femme dit « ça m'importe peu ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu me bénisses. Je te fais confiance. Et vois-moi n'importe comment, je sais comment je suis. Chien ou petit chien. Mais je continue à supplier. Je sais que tu ne vas pas me rejeter. Chien ou petit chien, je continue à mendier des petites miettes de ta grâce infinie. Enfin, que Dieu nous aide vraiment à lui abandonner certaines idées, certaines échelles de valeurs, certaines de nos conceptions, ces phrases que nous disons, ces idées que nous avons, ces conceptions que nous défendons bien souvent. Apprenons aussi à savoir les réexaminer à la lumière de l'œil de Dieu et à les abandonner à Dieu pour dépasser nos propres limites dans notre marche avec le Seigneur. Un Roger Lefebvre disait, le Seigneur est un passeur de frontières, un passeur de mer, un passeur de vie. Apprenons-nous aussi à comme ça savoir passer les frontières dans les choses qui sont parfois bien barricadées dans nos vies. Amen.